Richard Pratt raconte l'anecdote suivante. Quand j'étais enfant, dit-il, on prenait toujours la voiture pour aller en vacances en famille. On avait toujours une destination précise en tête, qu'on finissait par atteindre, mais différentes choses pouvaient arriver en route et modifier notre plan de voyage. On pouvait par exemple être amené à rester plus longtemps que prévu dans un endroit, ou nous arrêter pour changer un pneu crevé. Eh bien, c'était un peu pareil pour les prophéties de l'Ancien Testament. Dieu a un plan parfait pour toute l'histoire de l'humanité. Ce plan ne peut que s'accomplir et chaque étape de sa réalisation était prévue par Dieu dans sa souveraineté. Mais en même temps, nous savons que dans sa providence, Dieu observe comment les hommes réagissent face aux prophéties. Et en fonction de ces réactions, Dieu choisit d'agir d'une façon plutôt que d'une autre. C'est ainsi que l'eschaton, le sort ultime auquel est destinée l'humanité, est à l'œuvre dans toute l'histoire biblique. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la Bible, nous voyons que Dieu révèle de plus en plus ses projets pour son peuple. Dans cette leçon intitulée L'eschatologie à travers l'histoire, nous allons étudier la vision prophétique de la fin des temps, c'est-à-dire l'eschatologie et son évolution au cours des différentes étapes de la révélation prophétique. Nous examinerons les révélations eschatologiques à travers quatre grandes étapes essentielles. Premièrement, l'eschatologie de Moïse. Deuxièmement, l'eschatologie des premiers prophètes. Troisièmement, l'eschatologie des prophètes tardifs. Et quatrièmement, l'eschatologie du Nouveau Testament. Commençons par voir les perspectives offertes par Moïse.
Vous est-il arrivé, dans une période difficile, de tenir seulement grâce à l'idée que tôt ou tard, cette épreuve serait derrière vous? Eh bien, c'est plus ou moins la perspective que Moïse offrait à Israël. Il a prévenu le peuple qu'il allait vivre des temps très durs, passant même par un exil hors de la terre promise. Mais il lui a aussi offert un espoir, une espérance eschatologique, en annonçant qu'un jour, les choses iraient beaucoup mieux.
Pour comprendre la vision eschatologique de Moïse, il nous faut d'abord rappeler quelques points fondamentaux des rouages des alliances que nous avons déjà abordés dans les leçons précédentes, à savoir les cycles de l'alliance et l'aboutissement de l'alliance. Vous vous souvenez sans doute que Moïse avait compris que Dieu allait éprouver la fidélité de son peuple et que souvent ce peuple n'allait pas être à la hauteur. Partant de là, Moïse a enseigné que la relation entre Yahvé et Israël serait caractérisée par des cycles alternant des périodes de jugement et de bénédiction. Quand le peuple de Dieu se rebellait ouvertement contre l'Éternel, il subissait les sanctions divines dans le domaine militaire et à travers la nature. Et quand le peuple de Dieu était fidèle à l'Éternel, il recevait des bénédictions divines dans le domaine militaire et à travers la nature. Ce caractère cyclique des alliances, où les bénédictions succèdent aux jugements et vice-versa, apparaît dans tout l'Ancien Testament. L'eschatologie que développe Moïse dans ses livres se base sur ce modèle d'alternance de jugement et de bénédiction. Mais Moïse ne pensait pas pour autant que ces cycles de l'Alliance se répéteraient à l'infini sans avancer vers un but quelconque. Au contraire, il entrevoyait pour l'avenir une fin bien précise et un eschaton. Pour comprendre comment Moïse présentait l'aboutissement de la vie sous l'Alliance ou l'eschaton, voyons sa conception de l'histoire à travers trois éléments constitutifs. L'exil, puis la repentance et le pardon, et enfin la restauration après l'exil. Tout d'abord, Moïse réalisait que les jugements de Dieu seraient de plus en plus sévères à mesure qu'Israël s'éloignerait de Dieu. Le jugement divin devait atteindre son apogée avec l'exil d'Israël de la terre promise. Le peuple de Dieu devait subir des défaites militaires
et l'harmonie qui régnait dans la nature en territoire d'Israël devait être brisée. Ainsi, le peuple de Dieu serait dispersé parmi les nations et la terre promise se transformerait en ruine. Voici comment Moïse exprime cette idée dans Deutéronome, chapitre 4, versets 25 à 28. Lorsque tu engendreras des fils et des fils de tes fils, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des statues, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous disséminera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous rendrez un culte à des dieux, œuvre de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. On voit dans ce passage que Moïse a prédit un terrible exil, mais malgré tout ce que laissait présager cet affreux événement, il ne devait pas signer la fin de la relation d'alliance entre Yahvé et Israël. En effet, la repentance et le pardon pouvaient changer la situation du peuple de Dieu en exil. Comme le dit Moïse dans Deutéronome chapitre 4, verset 29. C'est de là aussi que tu rechercheras l'Éternel ton Dieu. Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Une fois déporté, le peuple de Dieu pouvait encore revenir à la raison, se repentir et obtenir le pardon de Dieu. Et quel serait le résultat de cette repentance et du pardon? En un mot, cela devait entraîner la restauration avec un retour d'exil. Moïse a enseigné que Dieu aurait pitié de son peuple et qu'il le ramènerait en terre promise pour qu'il y demeure pour toujours, en jouissant des bénédictions de l'Alliance au-delà de l'imaginable. Voici comment Moïse décrit le comble des bénédictions de l'Alliance dans Deutéronome chapitre 4, versets 30 et 31. Dans ta détresse, toutes ces paroles t'atteindront, mais à la fin des temps, tu reviendras à Yahvé ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car Yahvé ton Dieu est un Dieu miséricordieux qui ne t'abandonnera ni ne te détruira et qui n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment avec tes pères. Au chapitre 4, verset 30, Moïse utilise pour la première fois un terme technique pour désigner cette période de restauration finale. Il déclare que la restauration d'Israël à son retour d'exil se produira à la fin des temps. En hébreu, ça correspond à l'expression « basharit hayamim » qui, la plupart du temps, se traduisait par « dans l'avenir », c'est-à-dire « un moment indéterminé dans le futur ». En revanche, dans Deutéronome chapitre 4, verset 30, cette expression est utilisée dans un sens plus spécifique pour parler de la fin des temps ou de l'apogée de l'histoire. Cette expression est employée dans le même sens dans beaucoup d'autres passages prophétiques, notamment dans Ésaïe chapitre 2, verset 2, Michée chapitre 4, verset 1 et Osée chapitre 3, verset 5. Dans le Nouveau Testament, on retrouve le même terme dans Actes chapitre 2, verset 17, dans l'Épître aux Hébreux chapitre 1, verset 2 et dans l'Épître de Jacques au chapitre 5, verset 3. En fait, c'est de cette expression qu'est dérivé le terme théologique « eschatologie », à savoir l'étude des choses dernières ou des événements ultimes.
Voici comment on pourrait résumer l'eschatologie de Moïse. Il savait qu'Israël allait connaître la déchéance en commettant de graves péchés, ce qui entraînerait son exil. Mais une fois déportés de leur pays, les Israélites devaient se repentir de leurs fautes et recevoir le pardon de Dieu. Puis à la fin des temps, à l'escaton, il devait revenir en terre promise et recevoir d'extraordinaires bénédictions. Cette vision eschatologique de Moïse est à la base de toutes les attentes prophétiques tout au long de l'histoire.
Maintenant que nous avons vu l'eschatologie simplifiée de Moïse, tournons-nous vers l'eschatologie des premiers prophètes de l'Ancien Testament. Comment les prophètes, avant l'exil à Babylone, comprenaient-ils l'évolution de l'histoire et son accomplissement à la fin des temps?
Dans cette leçon, quand on parle des attentes des premiers prophètes, on a en tête les prophètes qui ont exercé leur ministère jusqu'à l'époque de Daniel. Ces prophètes avaient une conception assez basique de l'eschatologie qui ressemblait beaucoup à celle de Moïse.
Nous étudierons l'eschatologie des premiers prophètes en deux temps, en examinant d'abord les points communs avec l'eschatologie de Moïse, puis les nouveaux éléments par rapport à Moïse. Pour commencer, voyons en quoi les grandes étapes de l'histoire esquissées par Moïse ressemblent à l'eschatologie des premiers prophètes. En gros, le scénario de Moïse comprenait un jugement du peuple d'Israël qui aboutissait à l'exil, suivi d'une repentance qui aboutissait à la grande restauration. Les prophètes de l'Ancien Testament ont passé beaucoup de temps à mettre en garde le peuple quant à l'exil qui l'attendait. Et comme Moïse, les prophètes avant Daniel ont toujours gardé l'espoir qu'un jour, lors de l'exil, viendrait le temps de la repentance et du pardon. En fait, les prophètes croyaient que Dieu allait régénérer de manière surnaturelle le reste de son peuple exilé et qu'il le pardonnerait. Comme le dit Ésaïe au chapitre 10, verset 20 de son livre, « Il arrivera en ce jour-là que le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. » Le prophète Jérémie a repris à peu près le même message en annonçant que le peuple déporté recevrait un cœur nouveau qui le pousserait à être fidèle et à obéir à la loi de Dieu. Voici ce qui est dit dans Jérémie chapitre 31, verset 33 à propos des exilés. « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Les premiers prophètes attendaient donc un profond changement de cœur chez les exilés. Dans un troisième temps, les premiers prophètes de l'Ancien Testament affirmaient, comme Moïse, que le reste du peuple qui se repentirait serait ramené en terre d'Israël pour y être profondément restauré. Là encore, les mots d'Ésaïe sont révélateurs. Dans Ésaïe chapitre 44, versets 21 et 22, il est écrit « Souviens-toi de cela, Jacob, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois un serviteur pour moi. Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. »
Les premiers prophètes ont clairement confirmé les points essentiels de l'eschatologie de Moïse. Israël devait connaître l'exil avant de se repentir et d'être pardonné pour être ensuite restauré de retour dans son pays.
Mais les premiers prophètes ont aussi apporté quelques précisions à la vision eschatologique de Moïse. Une grande alliance a été conclue après Moïse et avant les premiers prophètes. L'alliance royale entre Dieu et David. Suite à cela, les premiers prophètes ont ajouté trois éléments essentiels à l'eschatologie originale, c'est-à-dire à la vision de la fin des temps selon Moïse. Ces trois nouveaux éléments importants sont la royauté, le temple et les nations païennes. Pour commencer, voyons ce que les premiers prophètes ont annoncé concernant la royauté. Tout d'abord, contrairement à Moïse, les premiers prophètes ont prédit à Israël un jugement qui allait au-delà des défaites militaires et des catastrophes naturelles. Comme le trône de David occupait désormais une place centrale dans la vie d'Israël, ces prophètes ont prédit que le châtiment divin s'étendrait aussi à David, dont le trône serait abandonné. Voici par exemple le jugement contre le trône de David prononcé par Ésaïe en réprimandant Ézéchias dans Ésaïe chapitre 39, versets 5 à 7. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici que les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés. Ils seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » L'abandon du trône de David était l'un des aspects de l'exil qui a marqué l'apogée de l'histoire d'Israël. Mais malgré la tragédie du jugement divin à l'encontre du trône de David, les prophètes ont aussi certifié à Israël que Dieu n'abandonnerait pas la maison de David pour toujours. Au contraire, ils ont prédit que la restauration d'Israël au retour d'exil passerait aussi par la restauration du trône de David dans toute sa gloire. Voici comment Jérémie annonce la restauration du trône de David dans Jérémie 23, versets 5 et 6. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera, il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. La promesse d'un descendant de David qui serait juste est devenue un point essentiel de la perspective de restauration à la fin des temps. Outre l'importance accordée au trône de David, les premiers prophètes ont aussi souligné le devenir du temple construit par Salomon, le fils de David. Beaucoup d'Israélites croyaient, à tort, que le temple de Yahvé à Jérusalem était imprenable. Les prophètes ont donc dû annoncer avec beaucoup de conviction la destruction du temple de Dieu. Par exemple, Jérémie a fermement dénoncé les faux prophètes et les prêtres qui s'obstinaient à dire que le temple ne serait jamais détruit. Au chapitre 7 du livre de Jérémie, le prophète met le peuple en garde contre ces faux enseignements. Au verset 4, il proclame « Ne vous confiez pas en des paroles trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Les vrais prophètes de Yahvé ont unanimement annoncé que le temple de Dieu serait détruit au moment de l'exil. Mais ils ont aussi promis que lors de la restauration après l'exil, un temple glorieux serait reconstruit. Le prophète Ézéchiel, plus que tout autre, a axé son message sur la reconstruction de ce temple glorieux au temps de la restauration. Les chapitres 40 à 48 de son livre traitent essentiellement de ce thème. Dieu a donné à Ézéchiel une vision du temple restauré et a ordonné à son peuple de s'atteler à sa construction. Voici le message que Dieu a adressé à Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 43, versets 10 et 11. Toi, fils de l'homme, décris ce temple à la communauté d'Israël. Qu'ils rougissent de leurs fautes et mesurent le plan. S'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait, fais-leur connaître la forme de ce temple. Mets-les par écrit sous leurs yeux, afin qu'ils retiennent toutes ses formes et toutes les prescriptions le concernant et s'y conforment. Les premiers prophètes ont donc complété l'eschatologie mosaïque par des prédictions concernant le trône de David et le temple. Mais ils ont aussi introduit un troisième thème que Moïse n'a fait qu'effleurer, les nations païennes. Premièrement, les prophètes avaient très bien compris que l'exil d'Israël signifiait que certaines nations païennes remporteraient la victoire sur le peuple de Dieu. Comme on le sait, ils ont prédit que les Assyriens et les Babyloniens allaient conquérir Israël et sérieusement malmener le peuple de Dieu. Si les peuples étrangers devaient triompher pendant l'exil d'Israël, d'après les prophètes, cette suprématie ne devait durer qu'un temps. À la restauration après l'exil, en rétablissant la maison de David sur le trône, Dieu allait se retourner contre les nations païennes qui avaient maltraité son peuple. Il devait alors écraser les nations païennes et faire triompher Israël en leur donnant une grande victoire. Ce thème revient sous différentes formes dans les écrits prophétiques, mais il s'exprime avec beaucoup d'intensité dans le terme « le jour de l'Éternel », Yom Yahvé en hébreu. L'idée de base derrière cette expression est que Yahvé est capable de détruire tous ses ennemis en un seul jour. Voilà pourquoi on dit que c'est le jour de l'Éternel, c'est-à-dire le jour de sa victoire dans la bataille.
Cette expression établit un contraste particulièrement saisissant entre l'exil et la restauration d'Israël. Pour mieux le saisir, voyons par exemple comment le prophète Joël parle du jour de l'Éternel.
On retrouve cette expression dans le livre de Joël au chapitre 1, verset 15, au chapitre 2, verset 1, au chapitre 2, verset 11, au chapitre 2, verset 31 et au chapitre 3, verset 14. Dans les trois premières occurrences, le jour de l'Éternel s'applique à la dévastation de Juda. Le peuple de l'Alliance ayant sombré dans le péché, il était devenu l'ennemi de Dieu. Et c'est pourquoi le jour de l'Éternel devait être pour lui synonyme de destruction et de déportation. Mais dans la seconde partie de son livre, Joël parle du jour de l'Éternel pour décrire un tout autre événement. Cet autre jour de l'Éternel devait se produire lors de la restauration d'Israël à son retour d'exil, et cette fois-ci, Dieu devait détruire les nations païennes qui avaient opprimé son peuple. Voici par exemple ce qu'on lit dans Joël, chapitre 3, versets 4 et 5. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré, car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. On voit ici que dans la bouche de Joël, le jour de l'Éternel ne désigne pas seulement le jugement du peuple de Dieu, mais aussi la grande bataille prévue lors du rétablissement d'Israël dans son pays. Avant de passer au thème suivant, il convient de noter que les nations païennes jouaient aussi un autre rôle dans l'eschatologie du peuple de Dieu, car elles devaient contribuer à l'expansion d'Israël en y étant rattachées. En effet, lors de la restauration d'Israël, au jour de l'Éternel, où Dieu frapperait les nations étrangères, tous les païens n'étaient pas censés être exterminés. Au contraire, après la bataille, beaucoup de païens devaient rejoindre le peuple de Dieu et avec lui adorer le seul vrai Dieu vivant. Le prophète Ésaïe décrit ce phénomène dans Ésaïe chapitre 2, versets 2 et 3. Il arrivera, à la fin des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et diront « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Ce passage et de nombreux autres décrivent les espérances eschatologiques ultimes des prophètes de l'Ancien Testament. Dieu devait combler Israël de bénédictions, mais ces bénédictions allaient aussi profiter à une multitude de dons juifs convertis à la vraie foi en Yahvé, intégrant ainsi le peuple de l'Alliance pour qu'il se répande jusqu'aux confins de la terre. C'est alors qu'apparaîtrait un nouveau ciel et une nouvelle terre, un monde glorieux rempli de la connaissance du Seigneur. C'est alors que la paix serait instaurée sur terre et tous les peuples qui y demeureraient adoreraient le seul vrai Dieu, le Dieu vivant.
Comme nous venons de le voir, les premiers prophètes avaient une vision de l'histoire qui reprend les grandes lignes de l'eschatologie mosaïque. Ainsi, ils croyaient, comme Moïse, qu'il devait y avoir un exil, mais qu'il serait suivi d'une repentance et du pardon conduisant à l'eschaton, c'est-à-dire la grande restauration des derniers temps. Mais les prophètes ont aussi complété cette vision de base avec trois éléments importants en soulignant la place centrale du trône de David, du temple et des nations païennes qui devaient jouer un rôle spécial à la fois dans l'exil d'Israël et dans la grande restauration du peuple de Dieu.
Nous avons défini l'eschatologie mosaïque, puis les points communs et les éléments nouveaux que présente l'eschatologie des premiers prophètes. Maintenant, penchons-nous sur l'élaboration de l'eschatologie des prophètes tardifs.
Dans les leçons précédentes, nous avons noté que les contingences historiques peuvent modifier considérablement la manière dont Dieu choisit d'accomplir les prédictions de ses prophètes. Eh bien, les écrits des prophètes tardifs témoignent d'une des contingences historiques majeures de l'Ancien Testament. Comme on va le voir, les réactions du peuple de Dieu ont eu des conséquences énormes sur le déroulement des événements des derniers temps ou l'eschaton.
Pour étudier cet aspect, nous examinerons d'abord les attentes formulées par Jérémie, puis le complément d'information apporté par Daniel, et enfin, les perspectives finales des prophètes de l'Ancien Testament. Commençons par une attente précise, exprimée par Jérémie, concernant la restauration d'Israël. Sur la plupart des points, Jérémie reprend le schéma eschatologique exposé par les premiers prophètes. Cependant, dans deux passages, il révèle un élément nouveau en prédisant que l'exil durerait 70 ans. Il écrit au chapitre 25, versets 11 et 12 « Tout ce pays deviendra une ruine, une désolation, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre cette nation. » Dans Jérémie chapitre 29, versets 10 et 11, l'Éternel confirme cette information. Dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Jérémie a prédit que l'exil ne durerait que 70 ans. Et d'après 2 Chroniques, chapitre 36, versets 21 et 22, cette prophétie s'est réalisée avec le retour des premiers Israélites dans leur pays, sous la houlette de Zorobabel, en 539 avant Jésus-Christ. Zacharie confirme lui aussi ces dates dans Zacharie, chapitre 1, verset 12, et Zacharie, chapitre 7, verset 5.
Jérémie a donc prophétisé un exil de 70 ans. Et d'une certaine manière, cette prédiction s'est parfaitement réalisée puisque, en 539 avant Jésus-Christ, l'empereur perse Cyrus a annoncé que les Israélites pouvaient rentrer chez eux et reconstruire leur temple.
Après la prédiction de Jérémie concernant les 70 années d'exil, nous pouvons examiner le complément d'information apporté par Daniel à la vision eschatologique. La contribution sans doute la plus importante de Daniel, en termes de prophétie, a été sa célèbre vision des 70 semaines d'années transcrites au chapitre 9 du livre de Daniel. Ce récit à la première personne décrit la vision reçue par Daniel vers 539 avant Jésus-Christ, quand Cyrus a publié un édit autorisant les Israélites à retourner en terre promise. Le chapitre 9 de Daniel commence par une introduction au verset 1 à 3, dans laquelle Daniel dit avoir appris, en lisant la prophétie de Jérémie, que l'exil devait durer 70 ans. On lit au verset 2. « Moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. » Daniel a donc réalisé que, d'après Jérémie, l'exil devait prendre fin au bout de 70 ans. Mais au lieu de se réjouir de cette nouvelle, comme on pourrait s'y attendre, au verset 3, on découvre que Daniel a une réaction bien différente. « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre. » Là où on aurait pu croire que Daniel jubilerait à l'idée que les 70 ans annoncés par Jérémie étaient passés, on le voit se couvrir d'une toile de sac et de cendre pour implorer la grâce de Dieu. Les versets 4 à 19 résument la prière de Daniel dans laquelle il aborde un sujet très grave. Son problème, c'est que malgré les 70 années écoulées prévues par Jérémie, le peuple de Dieu ne s'était toujours pas repenti de ses péchés. Comme il l'exprime clairement au verset 13 et 14. « Tout ce malheur est venu sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes, nous n'avons pas discerné ta vérité, nous n'avons pas écouté sa voix. » Daniel a compris une vérité que nous avons déjà vue plus tôt dans cette leçon.
Moïse a annoncé que l'exil se terminerait seulement quand le peuple de Dieu se repentirait de ses péchés. Mais un événement historique imprévu est venu perturber les choses. Les Israélites avaient bien été déportés, mais ils ne s'étaient toujours pas détournés de leurs fautes. Par conséquent, des changements significatifs vont devoir entrer en ligne de compte dans la façon dont Dieu va déployer sa vision ultime de l'eschaton.
Daniel termine sa prière en implorant la miséricorde de Dieu. Le peuple n'ayant pas renoncé à son attitude d'insoumission, le prophète demande simplement à Dieu de ramener les Israélites dans leur pays pour sa propre gloire. Voici les mots de Daniel au verset 17 et 18. Par égard pour toi-même, considère avec faveur ton sanctuaire dévasté. Ô mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre tes yeux et considère nos ruines. Regarde la ville qui t'appartient. Certes, ce n'est pas à cause de nos actions justes que nous te prions et t'adressons nos supplications, mais à cause de ton immense compassion. Contre toute espérance et malgré le refus de repentance des Israélites, Daniel espérait que Dieu allait restaurer son peuple. Le reste du chapitre 9 au verset 20 à 27 rapporte la réponse de Dieu à la prière de Daniel. L'ange Gabriel vient transmettre au prophète un message de la part de Yahvé. Voici ce qu'il annonce à Daniel au chapitre 9, verset 24. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. » En gros, Gabriel annonce que l'exil a été prolongé, passant de 70 années prévues par Jérémie à 70 semaines d'années, soit environ 490 ans. Devant le refus de se repentir de son peuple, Dieu a décidé de multiplier la durée de l'exil par 7. Cette sentence correspond à ce que Dieu a annoncé dans Lévitique chapitre 26, verset 18. « Si malgré cela vous ne m'écoutez pas, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. » Dieu a repoussé le moment de la restauration d'Israël et la terre promise est restée sous la domination de différentes nations païennes qui se sont succédées jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu en Christ. Nous avons vu que Jérémie a prédit un exil de 70 ans, puis que Daniel a eu la révélation que cette période devait être multipliée par 7 pour atteindre près de 490 ans. Maintenant, penchons-nous sur les dernières précisions eschatologiques apportées par les prophètes de l'Ancien Testament. La dernière période de prophétie de l'Ancien Testament correspond à la restauration après la libération d'une partie des Israélites et leur retour en terre promise. Pour comprendre la vision eschatologique des prophètes dans cette période finale de l'Ancien Testament, nous étudierons d'abord les attentes de restauration initiale, puis les attentes de restauration ultérieure. Commençons donc par voir ce qu'espéraient les prophètes juste après que les premiers groupes d'Israélites soient rentrés de Babylone. Dans la première période de restauration de 539 à 515 avant Jésus-Christ, des petits groupes d'Israélites sont revenus dans leur pays, avec l'espoir de voir Dieu combler de bénédictions son peuple élu, et ceci de façon rapide. En un sens, ils espéraient raccourcir les 90 années de retard dans l'accomplissement de la restauration annoncée par Daniel en se repentant et en servant finalement l'Éternel. Dans leur prophétie, Agée et Zacharie ont mis en avant 4 attentes eschatologiques. La restauration du trône de David, la victoire sur les nations païennes, la reconstruction du temple et la régénération de la nature. Agée et Zacharie nourrissaient de grands espoirs pour le peuple de Dieu. Ils espéraient que la fidélité d'Israël dans cette période apporterait de nombreuses bénédictions à la nouvelle nation. Si dans les premiers temps, après le retour des Israélites dans leur pays, Zorobabel et le temple suscitaient énormément d'espoir, cela n'a pas duré. On constate en effet que, dans la seconde partie de la période de restauration, les attentes n'étaient plus les mêmes. Zorobabel a terminé la construction du temple, comme le lui avaient ordonné Agée et Zacharie. Mais en lisant la seconde moitié du livre de Zacharie, ainsi que ceux d'Esdras, de Néhémie et de Malachie, on découvre que les habitants d'Israël ne présentaient qu'une obéissance de façade, sans se soucier vraiment de la volonté de Dieu. En seulement une génération, les mariages mixtes entre juifs et femmes païennes étaient devenus une pratique courante, ce qui a entraîné une apostasie généralisée. Par conséquent, l'espoir de grande bénédiction qui régnait en Israël au début de son retour d'exil n'était plus qu'un espoir lointain. Malachie, plus que tout autre prophète de cette période tardive, a beaucoup évoqué cet espoir lointain. Il a adressé de sévères reproches aux habitants de Jérusalem et les a prévenus qu'un jour, ils connaîtraient le jugement et la bénédiction. Voici par exemple ce qui est écrit dans Malachie, chapitre 3, verset 1. « Voici que j'enverrai mon messager. Il ouvrira un chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. » Et voilà comment Malachie décrit le grand jour à venir à la fin de son livre, au chapitre 3, versets 19 et 20. Car voici le jour. Il vient, ardent comme une fournaise. Tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux à l'engrais. À la fin de l'Ancien Testament, il était devenu évident que le salut promis n'allait pas arriver de sitôt, et que le peuple de Dieu devrait encore patienter avant de vivre la restauration complète. Nous avons vu que l'on doit à Moïse les premières perspectives eschatologiques de l'Ancien Testament et que les premiers prophètes sont venus les compléter de plusieurs manières, avec notamment des éléments comme la royauté et le temple de Dieu. Puis Daniel et les derniers prophètes de l'Ancien Testament ont prédit que l'exil se prolongerait longtemps avant que Dieu n'intervienne avec puissance pour restaurer son peuple. Tout cela nous amène à la dernière partie de l'eschatologie biblique, l'eschatologie du Nouveau Testament.
À chaque fois que nous lisons les prophéties de l'Ancien Testament, en tant que chrétiens, nous devons les considérer à la lumière des perspectives offertes par les auteurs du Nouveau Testament. Car ces derniers n'ont pas seulement compris les grandes étapes de l'eschatologie de l'Ancien Testament, mais ils l'ont aussi complétée par une réalité nouvelle, le ministère de Jésus-Christ. Jésus est venu sur terre et a bouleversé le cours et l'accomplissement de l'histoire. Et nous, chrétiens, devons nous approprier cette vision eschatologique qui nous est offerte par le Nouveau Testament.
La vision eschatologique développée dans le Nouveau Testament peut être définie à travers trois aspects. Des éléments clés du vocabulaire utilisé, le schéma eschatologique de base et les grands thèmes abordés. Commençons par étudier quelques termes importants qui reviennent dans le Nouveau Testament et qui nous donnent des indices sur la conception néo-testamentaire de la fin des temps. Concentrons-nous sur trois termes clés que sont l'Évangile, le Royaume et les derniers jours. Tous les croyants connaissent le mot « Évangile » qui vient du grec « euagelion » et qui signifie « bonne nouvelle ». Le Nouveau Testament affirme à maintes reprises que Jésus et ses apôtres annonçaient l'Évangile ou la bonne nouvelle. Plus de 100 fois, le message chrétien centré sur Jésus-Christ y est qualifié d'Évangile ou de bonne nouvelle. Il est très important de comprendre que les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas inventé le terme « Évangile », mais ils l'ont repris des prophètes de l'Ancien Testament. Ces derniers utilisaient le mot hébreu « bassar », souvent traduit par « bonne nouvelle ». Mais de quelle bonne nouvelle s'agissait-il? Pour résumer, la bonne nouvelle annoncée par les prophètes concernait la fin de l'exil et la restauration prochaine du peuple de Dieu. Lisons par exemple les mots d'Ésaïe dans Ésaïe chapitre 52, versets 5 à 7. Au verset 5 et 6, il écrit « Mon peuple a été emmené prisonnier sans dédommagement. Ceux qui le tyrannisent sont triomphants. C'est pourquoi, un de ces jours, mon peuple va savoir qui je suis. Il va le savoir, c'est moi qui dis, j'arrive. »
Dieu annonce que son peuple verra toute sa puissance en action et qu'il reconnaîtra que l'Éternel a prédit la restauration après l'exil.
Puis en évoquant cette promesse assurée que sera la restauration à venir, Ésaïe proclame au verset 7 « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle qui publie la paix, du messager de très bonne nouvelle qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Ésaïe a annoncé que l'arrivée de certains messagers serait un spectacle magnifique. Quels messagers? Ceux qui sont porteurs de bonnes nouvelles, autrement dit, l'Évangile.
Maintenant qu'on sait que le mot « Évangile » est directement lié aux bonnes nouvelles prédites par les prophètes, on comprend mieux pourquoi Jésus et ses apôtres ont annoncé l'Évangile du Christ, car Jésus a apporté la restauration en mettant fin à l'exil.
Dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, Jésus cite Ésaïe 61, versets 1 et 2, en appliquant cette prophétie à lui-même. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Comme le montre ce passage, Jésus se voyait comme celui qui apporte au peuple de Dieu la restauration après l'exil. Un deuxième terme important du Nouveau Testament, « royaume », va dans le même sens. Le Nouveau Testament qualifie lui-même la période néo-testamentaire comme celle du royaume. Mais pourquoi ce terme est-il si fréquent dans le Nouveau Testament? Parce qu'il est une façon de plus de montrer que Jésus a répondu aux espoirs de restauration après l'exil. Relisons la prophétie d'Ésaïe concernant la restauration après l'exil dans Ésaïe chapitre 52, verset 7. Dans ce passage, il établit un lien entre la bonne nouvelle et le règne de Dieu. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle qui publie la paix, du messager de très bonne nouvelle qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne.
Ces derniers mots, ton Dieu règne, annoncent la restauration du peuple de Dieu et sa victoire sur le monde. Et cette déclaration fournit un contexte aux enseignements de Jésus sur le royaume de Dieu. Jésus a dit qu'il apportait la restauration, car à travers lui, c'est le royaume de Dieu qui venait s'établir sur terre.
Un troisième terme nous aide à comprendre la vision de la fin des temps offerte dans le Nouveau Testament, et c'est l'expression « les derniers jours ». Comme nous l'avons noté plus tôt, les prophètes utilisaient ce terme pour parler de la période post-exilique. Dans la bouche des auteurs du Nouveau Testament, les derniers jours se réfèrent à la période néo-testamentaire. Par exemple, il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 17 « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. »
Les auteurs du Nouveau Testament parlent à maintes reprises de la période néo-testamentaire comme de l'eschaton, c'est-à-dire les derniers jours. En faisant cela, ils s'appuient sur les mots des prophètes de l'Ancien Testament. En effet, pour eux, l'époque du Nouveau Testament marquait l'aboutissement de toutes les prédictions prophétiques avec la restauration du peuple de Dieu.
Ces termes importants montrent que les auteurs du Nouveau Testament pensaient vivre le moment de l'accomplissement des attentes eschatologiques de l'Ancien Testament, l'étape finale de l'histoire de l'humanité qui correspond à l'avènement du Christ. Après ces précisions sur l'eschatologie du Nouveau Testament, étudions de plus près le schéma eschatologique de base proposé par le Nouveau Testament pour expliquer le processus de restauration du royaume. Pour appréhender ce nouvel aspect de l'eschatologie, nous examinerons deux perspectives différentes décrites dans le Nouveau Testament, la perspective de Jean-Baptiste et celle de Jésus. Commençons par voir comment Jean-Baptiste concevait les choses. En matière de royaume de Dieu, les attentes de Jean-Baptiste ressemblaient à celles de beaucoup de ses contemporains. À la lumière de l'Ancien Testament, Jean pensait que la venue du Messie serait synonyme de restauration immédiate du royaume. Voici ce que dit Jean du Messie dans Luc chapitre 3, versets 16 et 17. Il vient, celui qui est plus puissant que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main, il va nettoyer son aire. Il recueillera le blé dans sa grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, Jean croyait qu'au moment de la restauration d'Israël viendrait immédiatement le jugement et les bénédictions de Dieu. À cause de cet espoir de jugement et de bénédiction immédiat, créé par l'Ancien Testament, Jésus a dû expliquer à ses disciples, pendant une grande partie de son ministère, que l'eschaton n'allait pas se dérouler comme Jean et d'autres s'y attendaient. Au lieu de cela, Dieu avait décidé de réaliser la restauration progressivement, en étendant le processus sur une longue période. La teneur de la nouvelle révélation de Jésus sur l'eschaton ressort particulièrement bien dans les deux paraboles du royaume rapportées dans Matthieu chapitre 13, versets 31 à 35. Jésus y compare le royaume de Dieu à une petite graine de moutarde qui pousse jusqu'à devenir un arbre. Puis il le compare au levain qui permet de faire doucement lever la pâte. Après ces deux paraboles, Jésus voulait faire comprendre que le royaume et la restauration qui va avec n'allaient pas advenir d'un coup, apportant immédiatement le jugement et les bénédictions attendues, mais qu'il allait au contraire croître progressivement ou par étapes. On appelle la perspective eschatologique du Nouveau Testament, telle qu'elle est enseignée par Jésus et ses disciples, l'eschatologie inaugurée. On pourrait décrire ce concept de bien des manières, mais le plus simple est de le considérer sous forme de processus en trois étapes. La première étape correspond à la venue du Christ qui a inauguré le royaume. La vie, la mort, la résurrection et l'ascension du Christ, ainsi que la Pentecôte et le ministère des apôtres, ont posé les bases ou les premiers jalons de l'eschaton. La deuxième étape de la restauration d'après le Nouveau Testament est la continuation du royaume, qui correspond à la période actuelle, c'est-à-dire la période comprise entre la première et la seconde venue du Christ. La troisième étape de la restauration correspond à ce qu'on pourrait appeler le parachèvement du royaume. À son retour, Jésus accomplira pleinement la restauration promise depuis longtemps par les prophètes. Tout le message du Nouveau Testament s'inscrit dans ce schéma de base de l'eschatologie inaugurée. Nous avons vu quelques éléments clés de vocabulaire et le schéma eschatologique de base du Nouveau Testament. À présent, examinons quelques thèmes communs à l'eschatologie de l'Ancien et du Nouveau Testament. Deux thèmes majeurs sont particulièrement révélateurs de ce parallèle, l'exil et la restauration. Commençons par l'exil. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, le thème de l'exil se traduit surtout par la menace de Dieu de punir sévèrement son peuple à travers la guerre et la nature. Ce thème de l'exil est repris dans le Nouveau Testament, où il est transposé dans le nouveau schéma d'inauguration, de continuation et du parachèvement du royaume. Premièrement, lors de son ministère terrestre, quand Jésus a inauguré le royaume, il a souvent eu des paroles de jugement contre le peuple de l'Alliance. Le thème de l'exil apparaît aussi dans la continuation du royaume. D'une part, les enfants naturels d'Abraham continuent de subir une sorte d'exil spirituel, exclus des bénédictions du royaume de Dieu à cause de leur refus de servir leur Messie. D'autre part, cet exil s'applique aussi aux païens qui ont rejoint l'Église visible. En effet, le Nouveau Testament affirme clairement et à plusieurs reprises que la discipline d'Église, pouvant aller jusqu'à l'excommunication, est une façon d'imposer aux Juifs comme aux païens qui se rebellent contre Dieu un exil, une exclusion de la communauté des croyants en signe de jugement. Et enfin, le Nouveau Testament enseigne qu'au moment du parachèvement du royaume, certains seront contraints à un exil éternel. À son retour, Jésus jugera les apostats et prononcera une condamnation éternelle en les privant des bénédictions des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. On voit donc que l'exil prend tout son sens dans le Nouveau Testament en étant pleinement intégré dans les étapes d'inauguration, de continuation et de parachèvement du royaume. Bien sûr, le Nouveau Testament n'aborde pas seulement le thème de l'exil, mais parle aussi beaucoup des bénédictions de la restauration offerte au peuple de Dieu en Christ. Les prophètes de l'Ancien Testament ont prédit que dans les derniers jours, Dieu bénirait son peuple au-delà de toute mesure à travers les victoires de guerre et les dons de la nature. Et le Nouveau Testament enseigne que ces bénédictions de la restauration sont également présentes dans les trois étapes de l'avènement du royaume du Christ. Tout d'abord, lors de l'inauguration du royaume, de nombreux aspects de la restauration trouvent un écho dans le ministère de Jésus. les prophètes de l'Ancien Testament, avaient annoncé la restauration du trône de David et Jésus est appelé le fils de David, un titre normalement attribué au roi. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient dit que le temple serait reconstruit dans les derniers temps. Or, Jésus est le temple de Dieu. Les prophètes avaient prédit une grande victoire sur les nations étrangères mauvaises et leurs dieux. Et Jésus a remporté une première victoire au nom de son peuple en triomphant de Satan et du pouvoir de la mort. Les prophéties avaient promis un grand héritage au peuple de Dieu. Et Jésus a envoyé le Saint-Esprit qui fait office d'acompte de l'héritage qui nous attend. Et puis, bien sûr, les riches bénédictions de la nature annoncées par les prophètes se sont concrétisées par les innombrables guérisons physiques accomplies par Jésus lors de son ministère terrestre. Le Nouveau Testament présente la première venue de Jésus comme le début de la grande restauration finale porteuse de bénédictions. Deuxièmement, ces éléments propres à la restauration se retrouvent aussi dans la continuation du royaume, l'époque qui est la nôtre, entre la première et la seconde venue du Christ. Jésus continue de régner en roi sur le monde, comme l'avaient prédit les prophètes à propos du fils de David. Le corps du Christ incarne la promesse du temple de la fin des temps dont parlent les prophéties de l'Ancien Testament. L'Église est aujourd'hui appelée le temple de Dieu. Elle remporte des victoires spirituelles et triomphe du mal, accomplissant ainsi les promesses de victoire sur le monde qui avaient été faites au peuple de Dieu par la bouche des prophètes. Pour l'Église, le Saint-Esprit reste en acompte en vue de notre héritage à venir, dont nous profiterons pleinement un jour. Enfin, les bénédictions divines pour son peuple prennent souvent la forme de guérisons physiques et d'autres grâces spéciales dans la vie des chrétiens. À travers toutes ces choses et bien d'autres, le Nouveau Testament montre que les grandes promesses de restauration se réalisent aussi dans la continuation du royaume du Christ. Troisièmement, le Nouveau Testament enseigne que Jésus a apporté les premières bénédictions de la restauration et continue encore de les offrir. De plus, au moment du parachèvement du royaume, toutes les promesses de restauration de l'Ancien Testament s'accompliront pleinement. Quand Jésus reviendra, son royaume s'étendra jusqu'aux confins du monde, conformément à la prophétie du règne de David sur toutes les nations de la terre. Au retour de Jésus, la promesse d'un nouveau temple se réalisera dans la nouvelle création de Dieu, une création complètement régénérée pour devenir le temple unique de l'Éternel. À la fin de cette période, le peuple de Dieu remportera une victoire totale sur le mal et recevra tout l'héritage de la nouvelle création. Et puis, bien sûr, la nature redeviendra un paradis entièrement régénéré dans la gloire du salut. Dans toutes ces choses, et d'autres encore, s'accompliront les prophéties de restauration lorsque Jésus-Christ parachèvera son royaume. Dans cette leçon sur l'eschatologie à travers l'histoire, nous avons vu comment la vision de la fin ultime de l'histoire a évolué depuis Moïse jusqu'aux premiers prophètes, puis chez les prophètes tardifs et dans le Nouveau Testament. À chacune de ces périodes, Dieu a progressivement révélé son plan pour la fin ultime du monde.
En lisant les prophéties de l'Ancien Testament sur le jugement de l'exil, il faut les considérer sous l'angle du Nouveau Testament. Ceux qui transgressent l'Alliance sont passibles d'exil lors de l'inauguration, de la continuation et du parachèvement du royaume. Et à chaque fois que les prophètes de l'Ancien Testament évoquent la restauration future avec ses nombreuses bénédictions, il faut se rappeler que ces bénédictions nous sont aussi offertes dans l'inauguration, la continuation et le parachèvement du royaume du Christ. En gardant en tête ces réalités, nous pourrons voir les prophéties de l'Ancien Testament avec les yeux des auteurs du Nouveau Testament et de Jésus lui-même.